Histoire de mes livres. 2. Lettre de mon moulin. Sur la route d'Arles aux carrières de Fonvielle, passé le mont de Corde et l'abbaye de Montmajour, se dresse vers la droite, en amont d'un grand bourg poudreux et blanc comme un chantier de pierre, une montagnette chargée de pins, d'un vert désaltérant dans le paysage brûlé. Des ailes de moulin tournaient dans le haut. En bas s'accote une grande maison blanche, le domaine de Bontauban, originale et vieille demeure qui commence en château, large perron, terrasse italienne à pilastres et se termine en muraille de masse campagnard avec des perchoirs pour les pans, la vigne au-dessus de la porte, le puits dont un figuier en guirlande les ferrures, les hangars où reluisent les herses et les arrères, le parc aux brebis devant un champ de grêles amandiers qui fleurissent en bouquets roses vite effeuillés au vent de mars. Ce sont les seules fleurs de Montauban. Ni pelouse, ni parterre, rien qui rappelle le jardin, la propriété enclose. Seulement des massifs de pins dans le gris des roches, un parc naturel et sauvage, aux allées enfouies, toutes glissantes d'aiguilles sèches. À l'intérieur, même disparate de manoirs et de fermes, des galeries dallées et fraîches, meublées de canapés et de fauteuils Louis XVI, cannés et contournés, si commodes aux siestes estivales, larges escaliers, corridors pompeux où le vent s'engouffre et siffle sous les portes des chambres, agitent leurs lampasses à grandes raies de l'ancien temps. Puis, deux marches franchies, voici la salle rustique au sol battu, gondolée, que grattent les poules venues pour ramasser les miettes du déjeuner de la ferme, aux murs crépis soutenant des crédences en noyer, la panière et le pétrin ciselés naïvement. Une vieille famille provençale habitait là, il y a 20 ans, non moins originale et charmante que son logis. La mère, bourgeoise de campagne, très âgée, mais droite encore sous ses bonnets de veuve qu'elle n'avait jamais quittés, menant seule ce domaine considérable d'oliviers, de blé, de vignes, de mûriers. Près d'elle, ses 4 fils, 4 vieux garçons qu'on désignait par les professions qu'ils avaient exercées ou exerçaient encore, le maire, le consul, le notaire, l'avocat. Leur père mort, leur sœur mariée, ils s'étaient serrés tous 4 autour de la vieille femme, lui faisant le sacrifice de leurs ambitions et de leurs goûts, unis dans l'exclusif amour de celle qu'ils appelaient leur chère maman, avec une intonation respectueuse et attendrie. Braves gens, maison bénie! Que de fois l'hiver, je suis venu là me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres, aux saines émanations de nos petites collines provençales. J'arrivais sans prévenir, sûr de l'accueil, annoncé par la fanfare des paons, des chiens de chasse, miracles, miraclés, tambours, qui gambadaient autour de la voiture, pendant que s'agitait la coiffe arlésienne de la servante effarée, courant avertir ses maîtres, et que la chère maman me serrait sur son petit châle à carreaux gris, comme si j'avais été un de ces garçons. 5 minutes de tumulte, puis les embrassades finies, ma malle dans ma chambre, toute la maison redevenait silencieuse et calme. Moi, je sifflais le vieux miracle, un épagneul trouvé à la mer sur une épave par des pêcheurs de Pharaman, et je montais à mon moulin. Une ruine, ce moulin, un débris croulant de pierres, de fer et de vieilles planches, qu'on n'avait pas mis au vent depuis des années et qui gisait, les membres rompus, inutile comme un poète, tandis que tout autour, sur la côte, la meunerie prospérait et virait à toutes ailes. D'étranges affinités existent de nous aux choses. Dès le premier jour, ce déclassé m'avait été cher. Je l'aimais pour sa détresse, son chemin perdu sous les herbes, ces petites herbes de montagne grisâtres et parfumées avec lesquelles le père gaucher composait son élixir, pour sa plateforme effritée où il faisait bon s'encagnardir à l'abri du vent, pendant qu'un lapin détalé ou qu'une longue couleuvre aux détours froissants et sournois venait chasser les mulots dont la masure fourmillait. Avec son craquement de vieille bâtisse secouée par la tramontane, le bruit d'agrès de ses ailes en loques, le moulin remué, dans ma pauvre tête inquiète et voyageuse, des souvenirs de courses en mer, de haltes dans les phares, des îles lointaines, et la houle frémissante tout autour complétait cette illusion. Je ne sais d'où m'est venu ce goût de désert et de sauvagerie, en moi depuis l'enfance, et qui semble aller si peu à l'exubérance de ma nature, à moins qu'il ne soit en même temps le besoin physique de réparer dans un jeûne de parole, dans une abstinence de crise et de gestes, l'effroyable dépense que fait le méridional de tout son être. En tout cas, je dois beaucoup à ces retraites spirituelles. Et nul ne me fut plus salutaire que ce vieux moulin de Provence. J'eus même un moment l'envie de l'acheter. Et l'on pourrait trouver chez le notaire de Fonvielle un acte de vente resté à l'état de projet, mais dont je me suis servi pour faire l'avant-propos de mon livre. Mon moulin ne m'appartint jamais. Ce qui ne m'empêchait pas d'y passer de longues journées de rêve, de souvenirs, jusqu'à l'heure où le soleil hivernal descendrait entre les petites collines rases dont il emplissait les creux comme d'un métal en fusion, d'une coulée d'or toute fumante. Alors, à l'appel d'une conque marine, la trompe de M. Séguin sonnant sa chèvre, je rentrai pour le repas du soir autour de la table hospitalière et fantaisiste de Montauban, servie selon les goûts et les habitudes de chacun. Le vin de Constance du Consul, à côté de l'eau bouillie ou de l'assiette de châtaigne blanche dont la vieille mère faisait son dîner frugal. Le café pris, les pipes allumées, les quatre garçons descendus au village, je restais seul à faire causer l'excellente femme, caractère énergique et bon, intelligence subtile, mémoire pleine d'histoires qu'elle racontait avec tant de simplicité et d'éloquence, des choses de son enfance, humanité disparue, mœurs évanouies, la cueillette du vermillon sur les feuilles des chênes kermès, 1815, l'invasion, le grand cri d'allègement de toutes les mères à la chute du Premier Empire, les danses, les feux de joie allumés sur les places, et le bel officier cosaque en habit vert qu'il avait fait sauter comme une chèvre, farandoler toute une nuit sur le pont de Beaucaire. Puis son mariage, la mort de son mari, de sa fille aînée, que des pressentiments, un brusque coup au cœur, lui révélaient à plusieurs lieues de distance, des deuils, des naissances, une translation de cendres chères quand on ferma le cimetière vieux. C'était comme si j'avais feuilleté un de ces anciens livres d'oraison, à tranches fatiguées, où s'inscrivait autrefois l'histoire morale des familles, mêlée aux détails vulgaires de l'existence courante, et les contes des bonnes années de vin et d'huile, à côté de véritables miracles de sacrifice et de résignation. Dans cette bourgeoise à demi rustique, je sentais une âme bien féminine, délicate, intuitive, une grâce malicieuse et ignorante de petite fille. Fatiguée de parler, elle s'enfonçait dans son grand fauteuil, loin de la lampe. L'ombre d'une nuit tombante fermait ses paupières creuses, envahissait son vieux visage aux grandes lignes, ridé, crevassé, raviné par le soc et la herse. Et muette, immobile, j'aurais pu croire qu'elle dormait, sans le cliquetis de son chapelet que ses doigts égrenaient au fond de sa poche. Alors je m'en allais doucement finir ma soirée à la cuisine. Sous l'auvent d'une cheminée gigantesque où la lampe de cuivre pendait, accrochée, une nombreuse compagnie se serrait devant un feu clair de pied d'olivier, dont la flamme irrégulière éclairait bizarrement les coiffes pointues et les vestes de cadis jaune. À la place d'honneur, sur la pierre du foyer, le berger accroupi, le menton ras, le cuir tanné, son cachimbau, pipe courte. Au coin de la bouche, finement dessinée, parlait à peine, ayant pris l'habitude du silence contemplatif, dans ses longs mois de transhumance sur les Alpes dauphinoises, en face des étoiles qu'il connaissait toutes, depuis Jean de Milan jusqu'au char des âmes. Entre deux bouffées de pipe, il jetait en son patois sonore des sentences, des paraboles inachevées, de mystérieux proverbes dont j'ai retenu quelques-uns. La chanson de Paris, la plus grande pitié du monde. L'homme par la parole et le bœuf par la corne. Besogne de singe, peu et mal. L'une pâle, l'eau dévale. L'une rouge, le vent bouge. L'une blanche, journée franche. Et tous les soirs, le même senton avec lequel il levait la séance. Au plus la vieille allait, au plus elle apprenait, et pour ceux, mourir ne voulait. Près de lui, le garde Mitifio, dit pistolet, aux yeux farceurs, à la barbiche blanche, amusait la veillée d'un tas de contes, de légendes, que ravivait chaque fois sa pointe railleuse et gamine, bien provençale. Quelquefois, au milieu des rires soulevés par une histoire de pistolet, le berger disait très grave Si pour avoir la barbe blanche on était réputé sage, les chèvres le devraient être. Il y avait encore le vieux Ciblé, le cocher Dominique et un petit bossu surnommé le Rodeir, le rôdeur, une sorte de farfadé, d'espion de village, regards aigus, perçant la nuit et les murailles, âme coléreuse, dévorée de haines religieuses et politiques. Il fallait l'entendre raconter et imiter le vieux Jean Cosse, un rouge de 93, mort depuis peu et jusqu'au bout fidèle à ses croyances. Le voyage de Jean Cosse, 20 lieues à pied pour aller voir guillotiner le curé et les deux secondaires, vicaires, de son village. C'est que, mes enfants, quand je les vis passer leurs têtes à la lunette, et ça ne leur allait pas de passer leurs têtes à la lunette. Hé, nom d'un Dieu, tout de même, j'eus du plaisir. Tamben à guerre et des plaisirs. Jean Cosse, tout grelottant, chauffant sa vieille carcasse à quelques murs embrasés de lumière, et disant aux garçons autour de lui, « Jeunes gens, avez-vous lu Volney ? Jouven, avez-vous les dit Volney ? » Celui-là prouve mathématiquement qu'il n'y a pas d'autre dieu que le soleil. « Jes de Dieu, dum de Dieu, rien que le soleil. » Et ses jugements sur les hommes de la Révolution, « Marat, bonhomme. Saint-Just, bonhomme. Danton aussi, bonhomme. » Mais sur la fin, il s'était gâté, il était tombé dans le modérantisme. « Dis-le modérantisme. » Et l'agonie de Jean Cosse, dressé en spectre sur son lit et parlant français une fois dans sa vie, pour jeter au visage du prêtre « Retire-toi, corbeau, la charogne, il n'est pas encore morte !» Si terriblement le petit bossu accentuait ce dernier cri, que les femmes poussaient des « Aïe, bonne mère !» et que les chiens endormis s'éveillaient, grondant en sursaut vers la porte battue par la plainte du vent de nuit, jusqu'à ce qu'une voix féminine, aiguë et fraîche, Antonin, pour dissiper la fâcheuse impression, quelque Noël de Saboli, j'ai vu dans l'air un ange tout vert qui avait de grandes ailes dessus ses épaules. Ou bien l'arrivée des mages à Bethléem. Voici le roi mort, avec ses yeux tout trévirés, l'enfant Jésus pleure, le roi n'ose plus entrer. Un air naïf et vif de Galoubet que je notais avec toutes les images, expressions, traditions locales ramassées dans la cendre de ce vieux foyer. Souvent aussi, ma fantaisie rayonnait en petits voyages autour du moulin. C'était une partie de chasse ou de pêche en Camargue, vers l'étang du Vacarès, parmi les bœufs et les chevaux sauvages librement lâchés dans ce coin de Pampa. Un autre jour, j'allais rejoindre mes amis, les poètes provençaux, les félibres. À cette époque, le félibrige n'était pas encore érigé en institution académique. Nous étions au premier jour de l'église, aux heures ferventes et naïves, sans schisme ni rivalité. À cinq ou six bons compagnons, rire d'enfants dans des barbes d'apôtres, on avait rendez-vous tantôt à Mayanne, dans le petit village de Frédéric Mistral, dont me séparait la dentelle rocheuse des Alpilles, tantôt à Arles, sur le forum, au milieu d'un grouillement de bouviers et de pâtres venus pour se louer aux gens des masses. On allait aux Aliscans écouter, couchés dans l'herbe parmi les sarcophages de pierre grise, quelques beaux drames de Théodore Aubanel, tandis que l'air vibrait de cigales et que sonnaient ironiquement derrière un rideau d'arbres pâles les coups de marteau des ateliers du PLM. Après la lecture, un tour sur la lisse pour voir passer sous ses guimpes blanches et sa coiffe en petit casque la fière et coquette arlésienne pour qui le pauvre Jean s'est tué par amour. D'autres fois, nos rendez-vous se donnaient à la ville des Beaux, cet amas poudre de ruines, de roches sauvages, de vieux palais écussonnés, s'effritant, branlant au vent comme un nid d'aigle sur la hauteur d'où l'on découvre, après des plaines et des plaines, une ligne d'un bleu plus pur, étincelant, qui est la mer. On soupait à l'auberge de Cornille, et tout le soir, on errait en chantant des vers au milieu des petites ruelles découpées, de murs croulants, des restes d'escaliers, de chapiteaux découronnés, dans une lumière fantomale qui frisait les herbes et les pierres comme d'une neige légère. « Des poètes, Hanen, » disait Maître Cornille, « de ces personnes qui aiment à voir les ruines au clair de lune. » Le félibrige s'assemblait encore dans les roseaux de l'île de la Barthelasse, en face des remparts d'Avignon et du palais papal, témoin des intrigues, des aventures du petit Véden. Puis, après un déjeuner dans quelques cabarets de marine, on montait chez le poète Anselme Mathieu à Châteauneuf-des-Papes, fameux par ses vignes qui furent longtemps les plus renommées de Provence. Oh, le vin des papes, le vin doré, royal, impérial, pontifical! Nous le buvions là-haut sur la côte en chantant des vers de Mistral, des fragments nouveaux des îles d'or. En Arles, au temps des fades, florissait la reine Poncirade, un rosier, ou encore la belle chanson de mer, le bâtiment vient de Majorque avec un chargement d'oranges. Et l'on pouvait s'y croire à Majorque, devant ce ciel embrasé, ses pentes de vignobles, étayées de murtains en pierre sèche, parmi les oliviers, les grenadiers, les myrtes. Par les fenêtres ouvertes, les rimes partaient en vibrant comme des abeilles, et l'on s'envolait derrière elles, des jours entiers, à travers ce joyeux pays du Comtat, courant les votes et les ferrades, faisant des haltes dans les bourgs, sous les platanes du cours et de la place, et du haut du charaban qui nous portait, à grand tapage de cris et de gestes, distribuant l'orviétan au peuple assemblé. Notre orviétan, c'était des vers provençaux, de beaux vers dans la langue de ces paysans, comprenaient et acclamaient les strophes de Mireille, la Vénus d'Arles d'Aubanel, une légende d'Anselme Mathieu ou de Roumanille, et reprenaient en chœur avec nous la chanson du soleil. Grand soleil de la Provence, gai compère du Mistral, toi qui siffles la Durance comme un coup de vin de croc. Le tout se terminait par quelques bals improvisés, une farandole, garçons et filles en costume de travail, et les bouchons sautaient sur les petites tables, et s'il se trouvait une vieille marmotteuse d'oraison pour critiquer nos gaietés de libre allure, le beau Mistral, fier comme le roi David, lui disait du haut de sa grandeur « Laissez, laissez la mère, les poètes, tout leur est permis !» Et confidentiellement, clignant de l'œil à la vieille qui s'inclinait, respectueuse, éblouie, « Es nautre que fazen lissume, c'est nous qui faisons les psaumes !» Et comme c'était bon, après une de ces escapades lyriques, de revenir au moulin, se reposer sur l'herbe de la plateforme, songer au livre que j'écrirai plus tard avec tout cela, un livre où je mettrai le bourdonnement qui me restait aux oreilles, de ces chants, de ces rires clairs, de ces féeriques légendes, un reflet aussi de ce soleil vibrant, le parfum de ces collines brûlées, et que je daterai de ma ruine aux ailes mortes. Les premières lettres de mon moulin ont paru vers 1866 dans un journal parisien où ces chroniques provençales, signées d'abord d'un double pseudonyme emprunté à Balzac, Marie Gaston, détonnaient avec un goût d'étrangeté. Gaston, c'était mon camarade, Paul Arène, qui, tout jeune, venait de débuter à l'Odéon par un petit acte étincelant d'esprit, de coloris, et vivait tout près de moi, à l'orée du bois de Meudon. Mais quoique ce parfait écrivain n'eût pas encore à son acquis Jean des Figues ni Paris ingénu, ni tant de pages délicates et fermes, il avait déjà trop de vrais talents, une personnalité trop réelle pour se contenter longtemps de cet emploi d'aide-meunier. Je restais donc seul à moudre mes petites histoires, aux caprices du vent, de l'heure, dans une existence terriblement agitée. Il y eut des intermittences, des cassures. Puis je me mariai et j'emmenai ma femme en Provence pour lui montrer mon moulin. Rien n'avait changé là-bas, ni le paysage, ni l'accueil. La vieille mère nous serra tous deux tendrement contre son petit châle à carreaux et l'on fit, à la table des garçons, une petite place pour la novio. Elle s'assit à mon côté sur la plateforme du moulin où la tramontane, voyant venir cette parisienne ennemie du soleil et du vent, s'amusait à la chiffonner, à la rouler, à l'emporter dans un tourbillon comme la jeune Tarentine de Chénier. Et c'est au retour de ce voyage que, repris par ma Provence, je commençai au Figaro une nouvelle série des lettres de mon moulin, Les Vieux, la mule du pape, l'élixir du père Gaucher, etc., écrit à Champrosé dans cet atelier de Gênes de la Croix dont j'ai déjà parlé pour l'histoire de Jacques et de Robert Elmont. Le volume paru chez Hetzel en 1869 se vendit péniblement à 2000 exemplaires, attendant, comme les autres œuvres de mon début, que la vogue des romans leur fit un regain de vente et de publicité. N'importe, c'est encore là mon livre préféré, non pas au point de vue littéraire, mais parce qu'il me rappelle les plus belles heures de ma jeunesse, rire fou, ivresse sans remords, des visages et des aspects amis que je ne reverrai plus jamais. Aujourd'hui, Montauban est désert. La chère maman est morte, les garçons dispersés, le vin de Châteauneuf rongé jusqu'à la dernière grappe. Où sont Miracle et Miraclé, Ciblé, Mitifio, Lourudeiru? Si j'allais là-bas, je ne trouverais plus personne. Seulement les pins, me dit-on, ont beaucoup grandi. Et sur leur houle verte, scintillante, restaurée, rentoilée comme une corvette à flot, mon moulin vire dans le soleil, poète remis au vent, rêveur retourné à la vie.